franceinter.fr.
Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, le climat brûlant au Proche-Orient. Le Hamas appelle au soulèvement dans les territoires palestiniens. Après le discours de Donald Trump hier, les États-Unis reconnaissent Jérusalem, capitale d'Israël. Une des questions les plus inflammables du conflit israélo-palestinien, brutalement remise sur la table. Inquiétude dans le monde entier, y compris chez les alliés des Américains, sauf en Israël, bien sûr. L'État hébreu envoie des soldats en renfort en Cisjordanie. Nous serons avec le correspondant de France Inter à Jérusalem dans un instant. Les coulisses de la décision à Washington. Et notre invité est un spécialiste israélien des questions internationales. Johnny, comment te dire adieu ? Sa dépouille est au funérarium du Mont Valérien et on n'en sait plus sur l'hommage national samedi. Le convoi funéraire descendra les Champs-Élysées, cérémonie religieuse à la Madeleine, en présence du président de la République. Les détails avec Mathieu Culreau. Vous allez bien rire si vous étiez coincé dimanche dernier par la panne à Montparnasse. Figurez-vous que le TGV a un succès fou cette année. 8 millions de voyageurs en plus par rapport à 2016. Et fait de nouvelles lignes, bien sûr, mais aussi et surtout, succès du Ouigo. La France et les pétrodollars. Emmanuel Macron annonce 12 milliards de contrats au Qatar. Et le tableau de Léonard de Vinci, qui a battu tous les records chez Christie's, va rejoindre le Louvre à Abu Dhabi. La météo. Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Retour de la pluie, Elodie.
Oui, elle gagne une grande moitié nord-ouest avec du vent et jusqu'à 70 km à l'heure en rafale. Ailleurs, beaucoup de nuages. Le soleil résiste sur le flanc est. Les températures en profitent pour remonter un petit peu avec 5 à 11 degrés attendus cet après-midi. Et jusqu'à 15 degrés pour la Bretagne et la Méditerranée.
Dans ce journal, encore une défection de plus au Front National. Le maire de Brachet, ville symbolique, c'est là que Marine Le Pen fait sa rentrée chaque année. Et puis les Français ne dorment pas assez. Les médecins sonnent l'alarme. Ce sera le rendez-vous santé de ce jeudi avec Daniel Messager. Vous êtes les bienvenus dans le journal de 13h. Donald Trump place le monde, et particulièrement le Moyen-Orient, dans un cercle de feu. Commentaire ce matin du président turc Erdogan. C'est une des dizaines de réactions très inquiétantes après ce discours hier soir.
Aujourd'hui, nous avons enfin reconnu l'évidence que Jérusalem est la capitale d'Israël. Ce n'est rien de plus, rien de moins qu'une reconnaissance de la réalité. C'est pourquoi j'ordonne aussi au département d'État de commencer à préparer le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv jusqu'à Jérusalem.
Hier, avant ce discours, des chancelleries du monde entier mettaient en garde contre les conséquences. Les voici ce matin, les conséquences de cette annonce dans les territoires palestiniens. Le Hamas appelle à une nouvelle intifada et à faire de demain, vendredi, un jour de rage. Nous retrouvons Étienne Monin, le correspondant de France Inter à Jérusalem, dans une toute petite seconde. Rappel de ce qui se joue d'abord, le conflit entre Israéliens et Palestiniens. Parmi les points qui bloquent toute résolution de ce conflit, il y a justement la question de Jérusalem. Pour les Israéliens, c'est la capitale indivisible et éternelle de l'État hébreu. Les Palestiniens veulent aussi en faire leur capitale dans la partie est de la ville. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Est-ce que les territoires palestiniens vont à nouveau s'embraser dès aujourd'hui? Appel à la grève, appel au rassemblement et à des manifestations. Vous êtes à Jérusalem-Est, Étienne.
Oui, et on peut dire que c'est le retour de la confrontation de rue. Chaque grande ville, d'un côté et de l'autre, de la ligne verte à son mouvement. À Jérusalem, c'était quelques dizaines de personnes dispersées par la police israélienne. Jérusalem-Est s'est réveillée ce matin avec l'image d'un face-à-face. Porte de Damas, des policiers qui ont repris leur position face aux murailles. Derrière, les stores des magasins, majoritairement baissés, en signe de protestation. Le jour d'après ici est marqué par un état de choc, reconnaît Ali, propriétaire d'une
C'est comme un choc pour nous, parce qu'on avait l'espoir d'arriver à la paix, mais il a détruit tous nos espoirs.
Les Palestiniens de Jérusalem-Est veulent faire entendre aujourd'hui leur opposition, mais ils ne croient plus à l'action de l'autorité palestinienne. Ils savent qu'ils n'ont pas de levier politique coincé ici dans un statut particulier qui limite leur mode d'action, témoigne l'Oraille.
On résiste déjà en continuant à vivre ici dans ces conditions difficiles. Je pense que personne ne supporterait ces conditions de vie. Et la seule chose qui nous encourage, c'est qu'on croit que cette terre est à nous. Et on ne la quittera jamais. Quoi qu'il arrive, on restera ici.
Et le risque maintenant, la crainte, c'est la radicalisation, l'abandon de la politique de la négociation au profit de la politique de la résistance armée prônée par le Hamas qui fait aujourd'hui de la surenchère.
Étienne Monin en direct de Jérusalem. Ce matin, à nouveau, Emmanuel Macron prend ses distances avec la décision de Donald Trump, disant qu'il désapprouve cette décision, qu'il le dira à l'ONU. Ces mots et des réactions tranchées comme cela, on en trouve de venues de toutes les chancelleries du monde entier. Le seul qui affiche sa satisfaction, c'est le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Jour historique, disait-il hier. Et ce matin, il dit sa conviction que de nombreux pays vont suivre les États-Unis et reconnaître aussi Jérusalem comme capitale d'Israël. Israël qui envoie tout de même des renforts en Cisjordanie. L'invité de ce journal est Freddy Ethan. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ancien diplomate et porte-parole du gouvernement, directeur de recherche à Jérusalem. Jour historique, vous reprendriez cette expression à propos du discours de Donald Trump ?
Oui, tout à fait. Écoutez, d'abord c'est un secret de polichinelle que Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël, quand Paris est la capitale de la France. Mmh. Et d'ailleurs, nous appelons le président Macron, qui se trouve aujourd'hui au Qatar, de suivre le président Trump et tout naturellement reconnaître notre capitale. Il faut voir, je crois, les choses d'une manière beaucoup plus large, parce que je crois que, et je vous parle en ancien diplomate, la diplomatie au Proche-Orient a échoué. Et seul, je crois, que des coups spectaculaires, comme on a connu d'ailleurs avec le président Sadat il y a une quarantaine d'années, c'est-à-dire qu'il faut changer complètement la feuille de route. La feuille de route qui existe aujourd'hui, bien que le processus de paix est moribond, il agonise, il faut changer. Et je crois que Donald Trump a bien compris. C'est un homme d'affaires, il veut faire des deals, donc il change complètement le paradigme. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut voir dans un contexte géopolitique régionale qui a bien changé.
Monsieur Ethan,
la zone au Proche-Orient a bien changé.
Monsieur Ethan, un mot d'interprétation du discours. Est-ce que, pour vous, ça exclut que Jérusalem puisse être aussi capitale d'un État palestinien, le discours de Trump hier ?
Oui, sans doute. Parce que, vous savez, cela remonte à 1948 et les Arabes ont refusé tout compromis. Et puis, il faut dire, et c'est clair, que jamais Jérusalem a été une capitale arabo-musulmane. Elle n'a jamais été non plus jumelée avec une autre capitale, ni partagée avec un autre État. Donc, je crois que tout cela remonte à une situation absurde. Nous devons rectifier, donc, et Donald Trump a rectifié cette injustice, je dirais, historique. Donc, dans ce contexte-là, Donald Trump n'a pas dit quelles sont les limites municipales de cette Jérusalem.
Alors,
il n'a pas tracé non plus les frontières. Donc, pourquoi cette précipitation vers le Conseil de sécurité ? Et le Conseil de sécurité, vous le savez bien,
précipitation peut-être.
Et il y aura un veto.
Précipitation peut-être, monsieur Ethan, parce que on le voit, le climat dès après ce discours est brûlant. Là, j'ai devant moi des écrans de télévision avec voilà des premières échauffourées, l'appel à la violence du Hamas. Vous reconnaissez que ce discours, c'est quand même une allumette jetée dans un baril de poudre?
Non, pas cela, parce que je le répète, il faut voir le contexte. Le contexte, c'est effectivement ce qu'on appelle un processus régional. Nous avons des bons contacts aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite, avec l'Égypte et même avec la Jordanie.
Qui ont pris leur distance avec les propos de Donald Trump, hein, vous l'aurez noté.
Pour calmer les esprits dans leur propre pays, vous savez. Ils ont compris que c'est une poudrière, le Proche-Orient, et ça va de soi. Et il faut éviter que ça soit une guerre de religion. Et c'est pour ça que cette intifada, c'est-à-dire cette nouvelle intifada, n'est pas spontanée. Elle a été dictée par les leaders palestiniens et en premier chef par Mahmoud Abbas. Donc tout cela est tout à fait différent. A changé. Et puis, vous savez, il y a aujourd'hui, dans le contexte régional, la Syrie. On essaye de trouver un compromis. Al-Qaïda, il est aussi dans le Sinaï. Daesh est éliminé presque dans le contexte.
Le contexte n'est pas le même qu'avant. Il faut raisonner autrement. J'ai bien compris votre propos. Est-ce qu'Israël se prépare à un conflit ? On a vu ce matin que de nouveaux soldats avaient été envoyés en Cisjordanie. Comment Israël se prépare à répondre à cette violence ? Que savez-vous là-dessus ?
Écoutez, d'abord, nous avons pris des mesures, et cela ne date pas d'aujourd'hui, nous avons pris des mesures nécessaires dans ce cas-là. Et comme vous le savez, nous sommes évidemment préoccupés. Nous sommes malheureusement, je dirais, riches en expérience
sécuritaire et dans le combat contre le terrorisme. Toutes les mesures ont été prises, surtout parce que c'est à la fois une tâche immense et trop délicate, à l'approche de Noël d'ailleurs. Les touristes, les pèlerins affluent de partout. Donc nous devons être à la fois fermes et vigilants, nous prenons toutes les mesures, mais nous sommes hélas dans un conflit qui est interminable. Cela dure et endure depuis un siècle.
Alors monsieur Etienne, je voudrais qu'on entende notre correspondant à Washington, Grégory Phillips. Bonjour Grégory.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Avec vous, au fond, essayez de répondre à cette question. Pourquoi Donald Trump a-t-il pris cette décision et pourquoi l'a-t-il fait maintenant ?
Écoutez, il y a une scène qui est rapportée par le Washington Post ce matin. Ça se passe à Mar-a-Lago, en Floride, en mars. Et Trump s'entretient avec Alan Dershowitz, qui est un avocat célèbre ici, un proche de Netanyahou. Et que dit le président américain à Dershowitz ? Eh bien que ses prédécesseurs, depuis 20 ans, ont promis de déménager l'ambassade à Jérusalem, que personne ne l'a fait, qu'il sait qu'il va s'attirer des critiques et des problèmes, mais que lui va respecter cette promesse. Le Post raconte aussi que Trump a beaucoup consulté avant de prendre cette décision. À la Maison-Blanche, en fait, il y avait deux camps. D'un côté, Kushner, le gendre conseiller diplomatique, oui, et le vice-président Mike Pence, très favorable à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Faut dire aussi que Pence est un chrétien évangélique et que pour cette frange de l'électorat de Trump, le soutien à Israël et la question de Jérusalem sont des thèmes centraux. Et puis, opposé à cette décision, le secrétaire d'État Tillerson et le secrétaire à la Défense Mattis, qui tous les deux ont mis en garde contre les risques de déstabilisation de la région et de violence, notamment contre les intérêts américains au Proche-Orient. Finalement, c'est Trump qui a tranché et qui a donc pris cette décision qui va à l'encontre de 70 ans à peu près de politique américaine dans la région.
Merci Grégory Phillips. Freddy Etan, en quelques mots, ancien porte-parole du gouvernement israélien. Avec qui pouvez-vous négocier pour apaiser le climat ?
Écoutez, d'abord avec nos partenaires égyptiens et jordaniens, ce qu'on le fait d'ailleurs d'une part. D'autre part, nous essayons par tous les moyens avec l'Arabie Saoudite. Vous savez, l'Arabie Saoudite veut devenir le leader du monde arabe et essaye par tous les moyens. Donc il y a là, on va apaiser les esprits et nous voulons revenir à la table des négociations et nous lançons un appel à Mahmoud Abbas de calmer les esprits et de revenir donc à la table des négociations dans un climat beaucoup plus sincère et avec aussi l'appui des Américains. Les Américains seront toujours des partenaires et des médiateurs.
Merci.
Il ne faut pas les exclure.
Merci Monsieur Etan d'avoir répondu à nos questions. On va évidemment suivre l'actualité au Proche-Orient toute l'après-midi, toute la journée et au-delà sur France Inter. Dans l'actualité à l'étranger, il y a encore cette manifestation à Bruxelles, en Belgique, et capitale de l'Europe, pour soutenir la Catalogne. 10 000 manifestants dans la rue, selon la police.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Oui, il y a une grande émotion depuis hier à travers le pays après la mort de Johnny Hallyday. Alors on pouvait s'attendre à ce que les soirées spéciales hier à la télévision battent tous les records. Eh bien non. Même score à quelque chose près pour TF1 et France 2. 3 millions de téléspectateurs. Reste cette question, Johnny, comment te dire adieu ? Le message Merci Johnny en hommage au chanteur sera projeté sur la Tour Eiffel tout le week-end. Et puis Mathieu Culeron, samedi, il y aura l'hommage national. À quoi ressemblera-t-il cet hommage, Mathieu ?
Oui, eh bien la préfecture est en train de régler les derniers détails, mais pour l'heure, la dépouille de Johnny Hallyday se trouve au funérarium du Mont-Valérien. Un cortège vers 11h descendra donc samedi du Mont-Valérien pour remonter les Champs-Élysées et passer par la place de la Concorde. Le cortège qui devrait atteindre l'église de la Madeleine pour une cérémonie religieuse retransmise sur grand écran. La question d'un concert est évoquée à midi, mais cela reste à préciser. Dès ce soir, une première veillée de prière est organisée par le père Luc Redel, aumônier du spectacle à l'église Saint-Roch, et une seconde veillée est prévue dimanche. La mairie de Paris, vous l'avez dit, vient d'annoncer l'affichage dès demain d'un immense Merci Johnny accroché sur la Tour Eiffel. Même chose sur la façade de l'Accor Arena. Pas de funérailles nationales donc à proprement parler. Une procédure qui obéit à un protocole très particulier. En revanche, cet hommage devrait être d'une ampleur exceptionnelle, inédite. Dans le monde de la culture, ils sont d'ailleurs très peu à avoir bénéficié d'obsèques nationales. Victor Hugo, Pierre Loti, Maurice Barrès, Paul Valéry, Colette ou encore Aimé Césaire. Et ils sont encore plus rares dans le monde du musical. Joséphine Baker aura droit à cet hommage en 1975. Mais par exemple, Édith Piaf en 1963 n'aura droit à rien, même pas à une cérémonie religieuse.
Et à propos d'autres dommages nationaux, celui rendu à Jean d'Ormesson est programmé demain à l'hôtel des Invalides à Paris. Ce n'est pas tous les jours que la SNCF a une bonne nouvelle à annoncer en ce moment. Cela ne consolera pas les passagers coincés dans les trains le week-end dernier, mais bon, le TGV que l'on disait en perte de vitesse a roulé plein pot cette année. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
8 millions de passagers en plus depuis janvier par rapport à 2016. Quelles sont les raisons du succès, Maxime ?
Bien, la raison première, selon la SNCF, tient à son offre low cost, rien qu'avec Ouigo. C'est TGV Rose et Bleu, la compagnie affirme avoir gagné 2 millions de voyageurs sur les 12 derniers mois. Des usagers qui n'auraient pas pris le train si cette offre Ouigo n'existait pas, c'est en tout cas ce que nous dit la SNCF, laquelle assure que le nombre de ces trajets low cost dépasse aujourd'hui au moins le marché global des autocars longue distance. Pour le reste, les 6 millions d'autres voyageurs gagnés cette année, la SNCF l'explique en partie par une reconquête du marché des jeunes avec TGV Max, cet abonnement illimité proposé aux 16-27 ans pour 79 euros par mois. 95 000 jeunes l'utilisent aujourd'hui à raison de 5 trajets par mois. Mmh. Tout ça booste les ventes, affirme la SNCF, pour qui ces bons chiffres tombent tout de même à point nommé après la panique à Montparnasse. Ils interpellent sur tous ces chiffres 15 jours après un rapport du gendarme du ferroviaire qui mettait en avant un recul du train en France sur les deux dernières années.
Et puisque Ouigo a l'air de marcher, autant surfer sur le succès. La SNCF lance son nouveau site de réservation aujourd'hui même. Voyage SNCF devient Oui SNCF. La France n'a vraiment rien contre les pétrodollars. Deux illustrations dans l'actualité de ce matin. Emmanuel Macron au Qatar. Et comme souvent lors de ses voyages diplomatiques, l'annonce de très gros contrats. Ceux d'aujourd'hui concernent Airbus, la SNCF et la RATP notamment. 12 milliards en tout, dixit le président. L'envoyé spécial de France Inter au Qatar est Christian Chéneau.
Emmanuel Macron est venu prendre au mot l'émir Tamim qui affirme que son pays est en pointe dans la lutte contre le terrorisme. Les Français, comme les Américains, ont quelques doutes. Pour lever toutes les zones d'ombre, Paris et Doha ont signé la feuille de route d'une coopération bilatérale inédite dans un domaine très sensible.
L'action que nous souhaitons conduire en partenariat, je l'ai dit, c'est de couper tous les financements publics et privés identifiés à l'égard de toutes les structures qui sont de près ou de loin liées aux actions terroristes telles que nos services l'identifient. C'est d'échanger sur le plan technique entre nos services et d'accroître encore la coopération existante. Et c'est aussi d'apporter un soutien technique et d'intelligence réciproque.
Le président français et l'émir Tamim se sont parlé franchement, ce qui n'a pas de mieux aux affaires. Plusieurs contrats emblématiques ont été conclus, la vente de 12 Rafales et de 50 Airbus A321neo ou encore l'exploitation du métro de Doha.
Les contrats qui sont signés aujourd'hui sont des contrats qui doivent la qualité des entreprises françaises au grand travail qui a été fait par les ministres, mais qui vont permettre de la création d'emplois et un véritable travail de grandes entreprises françaises.
Emmanuel Macron repart avec une belle moisson de contrats, mais il attend aussi du Qatar des actes concrets dans la perspective de la conférence sur le terrorisme qui doit se tenir à Paris en avril 2018. Doha, Laurent Maquetti, Christian Chéneau, France Inter.
Et bonjour Isabelle Pasquier.
Bonjour.
Si vous êtes avec nous, c'est parce que l'autre illustration à propos de ces pétrodollars qui bénéficient en partie à la France, elle concerne le domaine de l'art. On se souvient de ce tableau de Léonard de Vinci, devenu le plus cher au monde après une vente chez Christie's le mois dernier. 450 millions de dollars pour le Salvator Mundi. Eh bien, le tableau va rejoindre le Louvre à Abu Dhabi. Et Isabelle, son acquéreur serait saoudien?
Oui, selon le New York Times, eh bien, il s'agirait du prince saoudien Bader El Saoud, un proche du prince héritier Mohamed Ben Salman. Il est l'un des plus jeunes entrepreneurs d'Arabie Saoudite. C'est un très très joli coup pour le Louvre à Abu Dhabi, qui est déjà le plus beau musée contemporain du monde et qui abrite des trésors, dont la belle ferronnière de Léonard de Vinci. Avec ce Salvator Mundi, il s'offre une attractivité mondiale et ce sera sa Joconde.
Est-ce qu'il a été acheté ou pas ?
Alors là, est-ce qu'effectivement c'est juste prêté au Louvre à Abu Dhabi? Aurait-il été racheté par le musée? Ou encore serait-il en copropriété? Et quand sera-t-il surtout accroché au mur du Louvre des Sables? Eh bien, pour le moment, c'est top secret. En tout cas, à défaut de sauver le monde, ce tableau, Salvador Mundi, sauvera à coup sûr le Louvre à Abu Dhabi. Dans cette zone de conflit, ce musée est déjà une arme diplomatique. Et c'est un Christ qui sera le plus grand ambassadeur des Émiriens et peut-être aussi de l'Arabie Saoudite.
Je vous parlais il y a un instant de cette manifestation en soutien à l'indépendance de la Catalogne à Bruxelles. 10 000 participants, c'était un premier bilan. Bilan remonté par la police de la capitale belge à 45 000 personnes. Le maire de Brachet dans la Haute-Marne, cette ville symbole pour le Front National. Le maire de Brachet quitte le FN. Ville symbole, pourquoi? Parce que c'est là que Marine Le Pen fait sa rentrée tous les ans. Eh bien Gérard Marchand, le maire de Brachet, décide de partir. Il dit pourquoi à Aurélien Colli.
Il y a deux choses qui m'ont chagriné. La première chose, c'est le débat entre les deux tours, ça m'a complètement consterné. J'ai trouvé très mauvaise, tout pour perdre. Par la suite, à chaque coup que je croisais quelqu'un, je me suis fait bafouer comme si c'était moi le responsable, que j'aurais jamais dû supporter, que j'aurais jamais dû faire tout ça. Quand Marine Le Pen est venue au village, comme elle vient tous les ans, j'ai trouvé qu'elle n'était plus la même. Plus aussi vaillante qu'avant, elle était soucieuse. Et puis, quand elle a mis Florian sur la touche, ça m'a pas plu du tout. Déjà, Hénin, Florian Philippot et Marine Le Pen, c'est eux deux qui faisaient marcher le Front National. Ils se complémentaient vraiment bien. Aujourd'hui, Florian Philippot n'est plus là. Marine Le Pen n'est même plus combative contre Macron pour défendre ses idées. Les ténors, qui s'appellent Maître Collard, Louis Alliot, Nicolas B., ont voulu faire les Kekos, toujours dénigrer Florian Philippot, surtout une fois qu'il était parti. Et aujourd'hui, on ne les voit pas. Parce que Florian Philippot, c'est lui qui avait contribué à expanser le Front National.
Bon, voilà qui est dit. Aurélien Colli, nous allons un peu plus loin avec vous. Le FN perd donc cette commune symbolique. Les communes gagnées en 2014, c'était un petit peu des vitrines et c'est de moins en moins reluisant. Il y a pas mal d'affaires au fil des années.
Tout à fait, Bruno. On commence par Ayange, en Lorraine, avec ses hauts fourneaux fermés et son maire venu de la CGT, Fabien Angelman, mis en examen au printemps dernier pour des irrégularités, sur un marché public de photocopieuses, plusieurs dizaines de milliers d'euros. La justice se demande si un intermédiaire proche du FN ne s'est pas servi au passage. À Hénin-Beaumont, dans le Nord, mise en examen aussi de l'adjoint à la culture. Cette fois pour diffamation, une enquête a établi un lien entre son adresse IP et une page Facebook baptisée La Voix d'Hénin, qui sous couvert de réinformation se déchaîne contre l'opposition et le journal La Voix du Nord, accusé même d'organiser des réunions secrètes contre le FN. Hénin-Beaumont encore, le maire Steve Briouat ainsi que celui de Fréjus dans le Sud, David Racheline, les deux sont visés par une enquête pour incitation à la haine sur leur page Facebook contre le maire de Sevran, accusé d'être, je cite, un collabo de l'islamisme ou bien la honte de la République. Résultat des commentaires d'internautes du genre une bastos pour le maire ou bien il faut le tuer. Et puis je termine avec Cogolin, pas loin de Fréjus. Multiplication des recours administratifs contre le maire qui brade l'immobilier de la commune. Une plainte pour délit de favoritisme aussi déposée la semaine dernière. Ça concerne la commercialisation des places du port, un marché de 70 millions d'euros attribué à une société initialement spécialisée dans le prêt-à-porter.
26 pays dans le monde reconnaissent désormais le mariage homosexuel, le dernier sur la liste aujourd'hui, l'Australie. Le rendez-vous santé, comme chaque jeudi, avec Daniel Messager. Bonjour Daniel.
Bonjour Bruno.
Nous ne dormons pas assez, c'est un phénomène de société et c'est un problème de santé. Et des médecins et chercheurs spécialistes du sommeil ont lancé il y a quelques jours un appel. Le manque de sommeil peut nous tuer. Nous nous mettons en danger en dormant de moins en moins. Alors, essayons de poser les choses avec vous, Daniel. On dit qu'il y a des petits et des gros dormeurs.
Alors, c'est vrai, mais les petits dormeurs sont rares, entre 1 et 3%. La grande majorité a besoin d'environ 7 heures de sommeil, en tout cas pas moins de 6. Mmh. Mais aujourd'hui, pour des questions de travail, transport, usage excessif de télé ou de tablette le soir, 30% des Français dorment à peine 6 heures et là, il y a danger.
Alerte lancée par la présidente du réseau Morphée, le docteur Sylvie Royan-Parola, qui est psychiatre.
Tous les spécialistes du sommeil sont vent debout avec le petit drapeau qui s'agite en disant « attention, là on va droit dans le mur pour des conséquences comme les accidents de voiture avec 30% de somnolence au volant, plus de maladies cardiovasculaires dont l'hypertension, des problèmes métaboliques, le fait de mal dormir ou pas assez dormir, ça va favoriser des anomalies de l'insuline, donc du diabète, tout ce qui est fonction cognitive qui s'altère. Quand on dort, on va avoir une fonction qui est extrêmement importante, qui est une fonction de lavage du cerveau qui va faire que les neurones vont pouvoir se reconstituer normalement et qu'on va pouvoir mettre à distance la maladie d'Alzheimer, par exemple, et que ne pas dormir suffisamment va faire le lit de ces anomalies de la dégénérescence des neurones.
Et voilà, le corps s'engraisse et le cerveau s'encrasse par manque de sommeil.
Délicieux, et ça ne fait pas plus réagir que ça. On écoute à nouveau le docteur Sylvie Royan-Parola. Pas de réaction, comme si ce problème était mineur.
Alors c'est ça qui est assez surprenant, c'est que alors que le sommeil c'est vraiment tout le back-office qui va nous permettre de nous réparer, de nous reconstruire, eh bien on fait comme si le sommeil c'était un temps pour rien.
Et vous dites le pire est à venir parce que la génération plus jeune dort aussi de moins en moins.
Les 5 dernières années montrent que chez les petits, 3, 4, 5 ans, le temps de sommeil se réduit parce que les enfants restent de plus en plus avec leurs parents, parce que de plus en plus on les stimule le soir y compris avec des activités sur tablette ou sur téléphone. Le temps de sommeil d'un enfant, c'est complètement sacré. Les maîtresses disent, mais on voit des petits-enfants qui s'endorment en classe.
Et donc, Daniel Messager, le sommeil, ça s'apprend tout petit.
Tout petit, oui. Et pour ceux qui dorment trop peu la semaine et qui pensent se rattraper le week-end, eh bien, sachez qu'en accumulant les privations la semaine, on dérègle son horloge biologique en générant beaucoup de fatigue, le lundi en particulier, donc on ne récupère en fait jamais totalement.
Daniel Messager pour le Rendez-vous Santé chaque jeudi dans le journal de 13h. Près de 25 000 jeunes devraient demander cette année le statut de mineur isolé en France. Médecins sans frontières a ouvert cette semaine à Pantin un centre d'accueil pour jeunes migrants isolés. C'est une nécessité, dit l'organisation. Ces jeunes gens ont normalement droit à une protection, une aide particulière, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup d'entre eux. Alors MSF va donc ouvrir ses portes à 50 jeunes par jour. Reportage Béatrice Duguet.
L'entrée est discrète, celle d'un ancien laboratoire, 600 mètres carrés de surface sur deux niveaux.
Alors, ici, vous avez un premier bureau administratif social.
Quatre pôles dans ces locaux lumineux pour apporter une assistance juridique et sociale, pour évaluer aussi la santé des jeunes, physique et mentale.
C'est une robin infirmière. On a besoin de savoir comment ils sont. Est-ce qu'ils ont mangé à leur faim les trois derniers jours?
Le dispositif s'adresse à ceux qui arrivent en France, qui sont en transit ou qui ne sont pas reconnus mineurs, repérés malgré tout par les maraudes d'associations partenaires. Ils devraient être mis à l'abri par les autorités, s'indigne Corinne Thor, chargée de mission chez Médecins Sans Frontières.
Il faut respecter le droit international, les mineurs en particulier. Il faut absolument cesser de les laisser à la rue. C'est une population particulièrement vulnérable, c'est indigne, qui a des risques en plus de tomber dans des réseaux de passeurs, dans des réseaux de prostitution. Ils n'ont pas accès à l'aide alimentaire, ils n'ont pas accès aux soins. C'est absolument indigne.
Nuance très importante, il s'agit d'un centre d'accueil et pas d'un lieu d'hébergement. À 17h, les portes fermeront jusqu'au lendemain matin, 9h.
À 17h, c'est clair, tout le monde sera renvoyé malheureusement à la rue, mais on va s'assurer qu'ils auront accès aux distributions alimentaires et à tout ce qu'il faut en termes de vêtements et de couverture s'ils doivent passer une nuit dehors.
MSF travaille malgré tout sur une solution d'hébergement de transit pour une partie de ces jeunes.
Le nouvel archevêque de Paris est médecin et spécialiste de bioéthique. Monseigneur Michel Aupetit vient d'être nommé par le pape François. Il succède au cardinal André 23, malade, atteint par la limite d'âge après 12 ans à ce poste. Monseigneur Aupetit a exercé 12 ans comme médecin généraliste avant d'être ordonné prêtre. Il prend la tête du diocèse le plus important de France, qui comprend 500 prêtres. Cristiano Ronaldo, le suspense avant l'attribution du Ballon d'Or 2017 est aussi élevé qu'avant une élection au sein du parti En Marche. Le joueur portugais du Real Madrid devrait égaler le record de Lionel Messi avec un cinquième Ballon d'Or. Quel temps en France aujourd'hui à Lyon pour la fête des Lumières qui commence ce soir et ailleurs? Nous voyons cela dans un instant.
La météo avec les œufs fermiers de Loué. Loué, le bon goût de la liberté.
Élodie Calac.
Petite hausse temporaire du thermomètre, 5 degrés à Metz, 7 à Paris, Dijon, Rodez, mais 11 degrés à Lyon, Bordeaux, Perpignan, 14 à Rennes et à Pau, 15 à Nice. Pour avoir du soleil, il faut aller dans l'est, entre l'Alsace, les Alpes, l'est de la Corse. Partout ailleurs, les nuages finissent par s'imposer. Une perturbation traverse les régions du nord-ouest, elle gagne le nord de l'Aquitaine, le centre, les frontières du nord, avec de la pluie et du vent. Ça s'éclaircit un petit peu sur la Bretagne. Demain, ce sera plus frais, agité, avec du vent, de la pluie ou des averse, de la neige en montagne. Au nord de la Loire, on attend des giboulées, parfois neigeuses, avec du grésil, un coup de tonnerre et du vent fort sur les côtes.